horse go to win news. And I bet you,
if you just sit on that, you're gonna fall. I bet you,
if you want a winning hand, oh, if you want a perfect man,
bet you never lose my love, you will win. I bet you.
A carpenter can't build his house without his tools. I bet you.
If his shoes are too small to hurt your feet, and I bet you.
You can't know what's going on if you see.
Eh bien, salut à toutes et à tous. Bienvenue sur Fréquence. Ouais, super bien. Bienvenue sur l'antenne de Fréquence Paris. On parlait de nos des amis d'avant, donc
bah, oui.
On peut quand même aussi.
Bah,
hein.
Oui.
Donc, bienvenue sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 dans l'émission Zéro Hebdo. Zéro Hebdo, les.
Et bras cassés de l'information.
Comme d'hab.
Là, j'ai un peu le Muppet Show aussi, je suis.
Ouais, il paraît qu'on est une bande de délinquants séniles. Donc, on l'assume.
Tu veux dire qu'il y a que des vieux autour de la table, tout ça
Ouais.
Il y a un
Oui, oui, allez, on attaque là, parce qu'ils en ont rien à
cirer. Déjà qu'on a 10 auditeurs, alors.
ça fera neuf. Donc, vous dire que pour nous joindre pendant l'émission, le numéro d'antenne, c'est le 01 40 05 06 10. Le 01 40 05 06 10. Et puis saluer tous celles et toutes ceux qui nous écoutent sur le site de la radio www.rfpp.net. L'émission sera rediffusée ce jeudi de 7h à 8h.
Voilà. De toute façon, il n'y avait rien dans les médias alternatifs, libres, libérés, enfin tout ce que vous voudrez, les sites web, les radios, etc. Il ne se passe rien, presque rien, comme le 1er mai d'ailleurs, on va vous en parler.
Voilà. Bah, justement, pour commencer par le 1er mai, je vais lire un message que nous a envoyé Moumia Moudjamal, toujours en prison à Sea Green. À l'approche donc de ce 1er mai, célébré depuis plus d'un siècle comme le symbole du pouvoir des ouvriers, cette journée semble être également devenue le symbole des reculs imposés par l'oppression capitaliste. Alors que le système économique a traversé des chocs et bien des secousses, les richesses sociales ont été asséchées au profit des intérêts des banques et des entreprises. Cela explique les aides financières accordées aux millionnaires, tandis que les travailleuses et les travailleurs avaient à subir, dans le meilleur des cas, des tourments causés par des baisses de salaire, et dans le pire, des licenciements en masse. Parallèlement, l'économie se réorganise bien dans un sens toujours plus hostile au travail. Marx et Engels ont très justement affirmé que l'État moderne n'est rien d'autre que le comité exécutif de la bourgeoisie. Sinon, pourquoi les puissances financières mondiales verseraient-elles sans la moindre contrepartie des centaines de milliards dans les caisses des entreprises quand celles-ci distribuent l'aumône aux travailleurs et à leurs familles comme on jette une pièce dans le bol d'un clochard? Le 1er mai débuta aux États-Unis au 19e siècle au cours des événements décisifs de la révolte de Hammerhead Square, la lutte des ouvriers pour la semaine de 40 heures et pour l'abolition du travail des enfants. En Amérique et en Europe, en Afrique comme en Asie, le 1er mai reste symbolique de la lutte des travailleurs et des travailleurs contre l'oppression étatique et capitaliste. Le capitalisme se trouve fondamentalement dans une grave crise. Les guerres absurdes, toutes comme l'ascension bien réelle de l'économie des copains, n'en sont que le reflet. Si les travailleurs veulent vraiment changer le monde, ils doivent se tendre la main par-dessus les fausses barrières afin de construire un monde meilleur où la vie et la liberté seront autrement plus précieuses que le profit. Cela n'est pas seulement possible, c'est nécessaire. Voilà ce que nous disait Moumia Moudjamal.
Alors c'est qui? Ouais, c'est le comité, c'est
lui-même.
Ah d'accord.
C'est lui-même. C'est un texte qu'il a envoyé donc pour ce premier.
Il est en prison.
Et il est toujours rappelé donc là, le 19 janvier 2010. Donc la plus haute juridiction des États-Unis a renvoyé le dossier de Moumia Moudjamal devant la cour d'appel fédérale de Pennsylvanie en lui signifiant expressément de réexaminer sa décision pour se conformer à l'arrêt rendu dans une affaire similaire. Dans cette affaire, la Cour suprême avait confirmé la condamnation à mort. Le danger est donc grand désormais de voir un nouvel arrêt de mort peser sur Moumia Moudjamal. Donc il y a une pétition donc sur le site. Donc c'est www.moumiamoudjamal.net.
Oui, rappelons qu'il est dans le couloir de la mort. Voilà.
Et il y en a d'autres, hein.
Bien sûr.
Enfin,
tout à fait.
Tout autour de la planète. On enchaîne sur.
Bref, sur le 1er mai.
Sur le 1er mai, vous avez des choses à dire? Qu'est-ce qui s'est passé en France?
Enfin,
ah ben moi, tenez, je vais vous parler des gros dégâts qu'il y a eu à Bâle après le défilé du 1er mai. Des bâtiments ont été sprayés, le poste de police pris pour cible. Suite au 1er mai, malheureusement, je délire complètement. 120 manifestants cagoulés ont causé de gros dégâts en ville de Bâle, samedi soir. Ils ont sprayé des bâtiments et des trams, jeté des pierres et des pétards et attaqué un poste de police au cocktail Molotov. Les pompiers ont dû intervenir pour éteindre un début d'incendie ainsi qu'une voiture en feu. 15 personnes ont été arrêtées. Il s'agit de 13 hommes et de 2 femmes âgées de 17 à 41 ans. Des débordements ont aussi été signalés samedi à Zurich. La police a dispersé 300 individus cagoulés avant de les prendre en chasse dans les rues. Plus de 250 personnes ont été malheureusement arrêtées. Bon, ça, on l'a trouvé sur le blog cette-semaine.free.fr. Ailleurs, hein, parce que malheureusement. Ouais, enfin voilà, premier, donc mobilisation policière à Berlin et incident à Hambourg. À Berlin, il y avait pas mal de des centaines de policiers qui patrouillaient dans toutes les rues de Berlin pour encadrer les défilés du 1er mai. Il y avait des néo-nazis, malheureusement. La veille au soir, il y avait 17 officiers de police qui avaient été blessés dans des accrochages avec des manifestants à Hambourg. Il y avait 9 manifestants qui avaient lancé des pavés sur les forces de l'ordre, incendié des poubelles, malheureusement arrêtés. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre en Allemagne? Bah, c'est à peu près personne. Si, des jeux de pierre aussi, encore à Berlin, le soir du 1er mai. Non, rien du tout en Bavière. Qu'est-ce que j'ai encore? Ben voilà, tiens, nos amis belges à Liège, ils nous annoncent l'ouverture d'un nouveau squat. Ça va être le 4e ou le 5e à Liège. Il s'appelle le Pigeon Communal. Une belle demeure, une ancienne agence bancaire qui avant était squattée seulement par une bande de pigeons. Et ça depuis 10 ans. Donc après d'âpres négociations... ils ont réussi à arracher le droit de rester sur le toit. Les pigeons, hein, bien sûr.
Quoi qu'il y en a des fois, il y en a qui sont par terre aussi. Oui, oui, mais c'est autre chose.
C'est les clients des banques, malheureusement.
Et nos amis ont hissé le drapeau noir. En ces temps de crise, les banques qui nous sucent le sang, ça fait plaisir. Hein, heureusement qu'il y a les joies, une fois de plus. Donc le pigeon communal est né, pas de lingot d'or dans le bâtiment, ni dans le coffre-fort, mais un espace de vie, d'expérimentation, de création et de rencontre en marge du simulacre servi en soupe infâme par l'État. Un laboratoire autonome rejetant toute forme d'autorité, de discrimination et de profit. Donc le pigeon communal grandit, resto végétalien tous les dimanches, info kiosque tous les mercredis, scène slam mensuelle, répétition de plusieurs groupes toutes les semaines dans le coffre-fort, réunions diverses.
Il répète dans le coffre.
Ben voilà, il y a même un site pigeoncommunal.collectif au pluriel .net. Et toi, c'est Liège, c'est 1h30 en Thalys, c'est tout près. Il y a plein de monde qui est parti s'installer. C'est un peu le Canada pour les Américains sous Bush. Et ben sous Sarkozy, il y a pas mal de monde qui va là-bas. Et puis comme les locaux sont pas en reste, c'est pas mal. Et en plus là, c'est le printemps, ça va être vraiment sympathique. Je vais juste terminer.
Moi, hein, parce que j'ai envie d'enchaîner sur quelque chose. Aussi.
On est en Île-de-France, donc il paraît qu'il y a tremblé en France dans 9-3, juste à côté de l'aéroport, une des villes qui aurait une des plus grosses. Taxe professionnelle qui va être supprimée de la Seine-Saint-Denis, dirigée par un ex-stalinien néo-pragmatique de la nomenclature à Senzi et compagnie.
Monsieur Brauzac, c'est ça?
Non, c'est pas. Non, mais avant, sa femme, elle travaillait.
Ah, oula, c'est une histoire de famille.
Ouais, oui, c'est la nomenclature.
C'est carrément. Ah, oui,
voilà.
Communisme de droit divin, maintenant.
Voilà, donc à Tremblay, mais c'est pas ça. Hein, de toute façon, ils font comme les sosdèmes.
Héréditaire, ça rappelle des trucs.
Hein. Mais ils sont comme les sosdèmes, ils ont le même style, ils font gauche morale, tu vois. C'est vous les pauvres, de toute façon, on peut rien faire pour votre chômage, mais quoi qu'il arrive, il faut que vous pensiez bien et on va penser à votre place. Donc voilà, à Tremblay en France, pour être malheureusement plus sérieux, la situation est toujours tendue. Depuis que TF machin là.
C'était France 2.
Non,
c'était qui est venu faire son truc de merde.
L'autre avec le petit-fils de Pompidou là, qui a les gros sourcils. Là. Un reportage sur la drogue, les caméras étaient plutôt malvenues. Lundi, en fin d'après-midi, la semaine dernière, des incidents ont éclaté quand une équipe de M6 réalisait un reportage depuis une voiture banalisée de la mairie. C'est vraiment bien fait pour l'heure. Les journalistes avaient demandé à pouvoir filmer plusieurs lieux du grand ensemble. Ils ont filmé pendant qu'on était en voiture et on a été repérés. A expliqué à l'AFP Mathieu Montes, premier adjoint à la mairie de Tremblay qui était dans la voiture. Des pierres ont été jetées en deux vagues sur la voiture, dont deux vitres ont été brisées. Selon la police, il n'y a pas eu de blessés. Deux heures plus tard, une cinquantaine de personnes ont pris à partie des CRS après un contrôle de véhicule, selon une source policière. Trois policiers ont été légèrement blessés. Deux véhicules de CRS ont été légèrement endommagés par les jets de projectiles. Vraiment, là encore, la nomenclature communiste, prêt à tout pour baisser son froc, pour tout ouais, ça.
Devant
pour
M6,
tout ça, avoir un stage dans un grand média pour un cousin ou un... Ah là là.
Bon, enfin, on est mauvaise.
Non, c'est la réalité. Bon, je continue sur les journalistes.
Écoute, on peut continuer.
Bah, non, moi je voulais faire un truc quand même sur le 1er mai parce que il y a quand même un pays où il s'est passé des choses.
Où ça?
Bah, en Iran. Ouais. Il y a eu quand même. J'ai eu des infos. Alors, il y a eu quand même une manif sauvage de 4000 personnes, dont beaucoup de femmes qui y ont participé et essentiellement des ouvriers. Qui est parti du ministère des Travail de Téhéran. Évidemment, la ville était quadrillée de policiers, donc il y a eu des incidents. Il y a eu des incidents dans une dizaine d'autres villes, à peu près. Pour Téhéran, on a le chiffre, il y a 40 blessés, dont beaucoup de graves, une centaine d'arrestations dans tout le pays. Et là, il y a une grève des profs qui a débuté, avec grève de la faim aussi des prisonniers de la fameuse prison de Evin, qui se sont mis en grève de la faim en solidarité avec les professeurs. Voilà. Donc on n'en sait pas plus. Vous savez, ça arrive vraiment tout doucement, les infos de là-bas. Voilà.
Ben on va revenir.
On a quelqu'un qui voudrait nous parler de la grève des chômeurs.
Ah oui.
Ben on va continuer donc sur on va continuer donc sur le 1er mai et sur le journalisme. C'est à Grenoble, l'AFP déraille.
Ah oula, oui, grave.
Donc, il s'est passé quand même quelque chose d'assez assez étonnant. Donc,
je peux résumer un peu.
Oui.
Il y a eu des charges de bac. Hein, c'est une tradition à Grenoble. Hein, dès que ça bouge un peu, il y a eu des gens de la CNT locale qui ont été pris en partie par la BAC, aucune raison d'ailleurs. Voilà. Donc, et par contre, le Dobé plus l'AFP, ce sera encore illustré. Ah ouais. Rappelons ce que c'est que le Dobé.
Passé, hein, c'est qu'il y a un copain. Moi, parce que moi, je m'exprime comme ça. Je clairement. Il y a un copain de la CNT qui s'est fait choper au milieu du rassemblement. La seule différence, c'est que là, il y a eu un petit peu de réaction. Donc, ils étaient pas très 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 contents, quoi. Mm. Voilà, quand on réagit, ça les met en colère. Mais bon, il faut pas se laisser. Mais faut pas tendre la joue droite, quoi.
Ouais. Donc voilà un peu.
Voilà, la gauche. Hein.
Voilà, c'est un peu ce qu'ils ont pondu un peu pour le 1er mai à Grenoble. Donc l'AFP. Hein. Une jeune femme appartenant à la mouvance anarchiste a été interpellée et placée en garde à vue samedi dernier, donc à Grenoble, en marche de la manifestation du 1er mai après la dégradation de quatre abribus et d'une caméra de surveillance, a-t-on appris de sources policières. Les faits sont intervenus dans le centre-ville à la mi-journée après le passage d'un groupe de 70 personnes appartenant à la mouvance anarcho-libertaire qui participait au défilé du 1er mai. Une jeune femme a été arrêtée à la fin de la manifestation par les policiers alors qu'elle venait de casser une caméra de vidéosurveillance en se hissant sur une échelle. Lors de l'interpellation, qui a été mouvementée, une personne dont l'identité n'a pas été communiquée et qui s'opposait aux forces de l'ordre a été blessée, ont ajouté les policiers. Elle a été transportée consciente à l'hôpital de la ville où on leur a indiqué les pompiers sans préciser la gravité de la blessure. On se demande bien ce que les journalistes de l'AFP ont appris leur métier dans les écoles à larves de journalisme ou à Sciences Po. Quoi qu'il en soit, ils n'ont utilisé que les sources policières non vérifiées, balancées en pâture. Selon l'AFP, la personne arrêtée venait de casser une caméra de vidéosurveillance en se hissant sur une échelle. Où étaient donc ces journalistes pour affirmer un tel mensonge ? Au pied de l'échelle ou au téléphone avec le commissariat de Grenoble ? Notons l'euphémisme mouvementé de la dite interpellation. Les coups de matraque pleuvaient, un homme hurlait et se tordait de douleur, un monstrueux hématome sur la tête. Comptons sur le Dobé pour rectifier ses erreurs.
Oui, bon,
les témoins de l'arrestation, entre autres. Mais puisqu'on parlait des journalistes, mais ils continuent, puisque vous savez que les journalistes caillassent l'information sociale.
Ah.
Et ça, je le tiens du plan B, qui est pour l'instant sa dernière parution. Pour l'instant, il y a beaucoup de difficultés actuellement dans la presse alternative. Ouais. C'est un peu embêtant, mais bon.
Ciné Hebdo qui risque de s'arrêter.
Qui s'arrête,
QFD qui a des problèmes.
Ouais, Ciné Hebdo, c'est pas la presse alternative.
Oui,
ça,
mais bon. à la presse un petit peu, on, voilà.
Faut arrêter.
Donc à chaque parution, le plan B donc compare un petit peu des informations, on va dire sociales, qui ne passent pas, qui ne passent pas le seuil des médias dominants et des d'autres informations qui couvrent complètement ces médias-ci.
Bon, ta couche.
Merci. Oui, ça va venir. T'inquiète. Donc, on a trois exemples, donc, avec quatre journaux, Libération, Le Monde, Le Figaro et Aujourd'hui. Le premier exemple, donc, une explosion dans une usine du groupe Carbone Lorraine à Gennevilliers, donc en Seine-Saint-Denis, tue un ouvrier de 51 ans et blesse 12 personnes, dont 9 gravement. Plusieurs incendies ont eu lieu dans cette usine au cours des dix dernières années. Donc ça, c'était le 7 avril 2010. Libé n'en parle pas. Le Monde fait une brève. Le Figaro en autant. Et il y a un article dans Aujourd'hui le Parisien. Donc une autre information. Donc condamnation d'un patron du BTP par le tribunal correctionnel de Versailles dans les Yvelines à une amende de 8000 euros pour discrimination raciale et refus d'embauche. Il avait lancé au candidat un poste conducteur de travaux. On ne prend pas d'arabe ni de noir. Ça, c'était le 8 mars 2010. Et dans les quatre de ces journaux que je vous ai cités, aucun article ni brève. Troisième information, donc Sanofi Aventis annonce pour 2014 la fermeture de son site de Romainville, donc en Seine-Saint-Denis, qui entraînera la suppression de 250 postes. Le groupe pharmaceutique français déclare pour 2009 un bénéfice net de 6,4 milliards d'euros en hausse de 12,8%. Ça, c'est le 2 avril 2010. Libération en fait une brève. Le Monde, pareil. Il y a un article dans le Figaro. Et Aujourd'hui, le Parisien n'en parle pas. Par contre, une autre information, là où ils se sont bien rattrapés, si je puis dire. Donc, depuis le 1er janvier, Paris et sa banlieue sont à la une des médias. Deux faits divers dans les lycées. Un trafic de drogue démantelé à Tremblay en France. Un reportage sur des dealers diffusé de la part de TF1. Des bus caillassés, une casse dans une banque et un meurtre dans le RER. Libération fait 34 articles et 24 brèves. Le Monde fait 49 articles et 14 brèves. Le Figaro fait 45 articles et 15 brèves. Et donc aujourd'hui, le Parisien fait 66 articles et 29 brèves. Donc pour dire qu'effectivement, les journées caillassent bien l'information sociale.
Donc c'était du... Ah oui, c'est du média comparatif mainstream, là. Dans le même ordre d'idée, on est revenu au beau temps de l'éducation populaire. Voilà, là, les journalistes frappent encore. L'ultra-gauche à l'école grecque, par exemple. T'as cité, toi, c'est ton journal. Alors, moi, je cite le blog aussi cette semaine, .free.fr. Donc, des journalistes frappent encore. L'ultra-gauche à l'école grecque. France Info, 28 avril 2010, 7h11. Le plus de France Info ce matin est consacré à ces Français issus de la mouvance anarchiste qui se rendent régulièrement en Grèce. Là-bas, leurs homologues de l'ultra-gauche leur enseignent les méthodes de guérilla urbaine. Ce sont les services de renseignement français, les policiers de la DRCI, qui se sont intéressés de près à ce phénomène. L'un des éléments déclencheurs, ce sont les violences qui se sont produites à Poitiers en octobre 2009. Et puis, il y a eu ces derniers mois les dégradations de DAB attribuées là aussi à la mouvance anarchiste. Depuis, les policiers se sont aperçus que des militants de l'ultra-gauche rendaient régulièrement à Athènes, notamment.
On peut pas y aller en vacances lors
de perquisitions. Ils ont mis la main sur des documents qui prouvent qu'ils ont séjourné en Grèce. Si les Français s'intéressent aux Grecs, c'est notamment parce qu'ils ont une culture de l'affrontement.
Voilà. Tout à fait.
C'est ça. Alors, Exarchia, le QG des militants d'ultra-gauche. Exarchia, un quartier situé, parce qu'il continue, au nord-est d'Athènes, non loin du Parlement. C'est là, à deux pas de l'école polytechnique, que sont parties les violences après la mort du jeune Alexis tué par la police en décembre 2008. Ce quartier bohème est certainement le plus politique d'Athènes. Il y a des affiches partout sur les murs, défigurées par des tags, des graves vengeurs, policiers, cochons, assassins. Voilà en gros ce que l'on peut dire. Des drapeaux noirs sont accrochés sur la devanture de certains bâtiments. Certaines vitrines portent encore les traces d'une explosion à la bombe. À Exarchia, on trouve aussi des rues piétonnes et arborées, des cafés branchés, des maisons d'édition, des artistes. Le quartier sert aussi de refuge aux toxicos et des partis d'extrême gauche y ont leur siège. Ce koukoulofori, comme on les appelle en Grèce, les cagoulés en français, ne constitue pas une organisation structurée, mais ils maîtrisent les techniques de la guérilla urbaine, ce que l'y rend redoutable. C'est exactement cette expérience-là que recherchent les Français. Les messages sont souvent publiés sur des sites d'ultra-gauche. Lundi 12 février, 70 personnes ont été arrêtées dans le quartier d'Exarchia. Des appels pour exiger leur libération ont été diffusés sur Internet en France. Notamment, ce mercredi à Athènes, c'est le procès en appel de Giannis Dimitrakis, cet anarchiste qui avait été interpellé par la police après le braquage d'une banque à Athènes. Des actions de solidarité internationale ont été lancées, notamment en France. Au moment de l'affaire de Tarnac, la police avait appris que le principal suspect avait séjourné à Thessalonique. À l'époque, les enquêteurs se demandaient bien pourquoi il y avait séjourné. Voilà, c'est issu de cette semaine. Voilà, donc des extraits de la presse française. Oui, mais là, je pense qu'on...
L'article était également posté sur...
On défonce des portes ouvertes.
Un média Auvergne aussi.
Non, mais je crois que c'est aussi intéressant, je pense quand même, de rappeler comment aussi est maltraitée aussi l'information par ces gens-là de temps en temps, quoi. De refaire aussi un petit peu le point de temps en temps et de faire une piqûre de rappel, quoi, j'allais dire, entre guillemets, de temps en temps.
Qu'est-ce qu'on fait? On fait une petite pause musicale. Allez.
Bah, on aurait pu la préparer.
Baby. Then they call you Sissy, you the shaky waist. You never know Lagos at all. Lagos got on you to drop for boom boom. Lagos go turn you to sack on handbag. Nobody go greet to carry you again. Then they call you CC, you the shaky bum. All right. You the shaky bottom, you say you the look for more. Off camera. Lagos money made them come out for Lagos, oh yeah. Lagos money na Lagos in the live, oh. Then they call you CC, you they shake the bottom. Remember your papa and land. Why, baby? You don't remember your mama and home.
Mais si, ils ont de l'humour. Eh ben ils ont tellement de l'humour que bah ils repartent. Ouais, ouais, eh ben voilà parti. Donc nous revoilà donc sur sur Fréquence Paris Paris donc 106.3 dans l'émission Zéro Hebdo. Avant de redémarrer, on va vous reparler un petit peu de ce qui s'est passé à Ouaraka.
Enfin, dans la région de Ouaraka.
Dans la région de Ouaraka.
Je reviens, je me drogue un peu.
Oui, vas-y, vas-y. Fais attention de pas tomber quand même. Hein. Donc il y a une pétition en ligne pour la réintégration des arrêts de People and Baby. Donc c'est camarade.
Alors, je peux faire un petit aparté, c'est que nous, on était. Il y a eu une manif le 1er mai qui a continué. Hein. C'était la CNT qui organisait ça. Et on était faire un gros barouf sous les fenêtres du patron de People and Baby. Donc on lui a. La porte de son appartement, il fait cadenasser de machin en bleu, là, le Playmobil en bleu. Là. Voilà. Et ils ont mis un sacré barouf quand même. Hein. Ouais, voilà. Un sacré barouf en bas de chez le patron de People and Baby. Voilà, il ne l'oubliez pas que c'était un samedi 1er mai, il devait se reposer, mais bon, il se repose pas pour exploiter ses salariés EES.
EES, ouais. Donc les camarades de la CNT ont été licenciés de la. On rappelait un petit peu, hein, les camarades de la CNT ont été licenciés de la halte garderie où elles travaillaient suite à une journée de grève. Leur employeur, l'entreprise People and Baby, qui bénéficie d'une délégation de service public par la mairie du 13e arrondissement, utilise des arguments concernant l'hygiène et la sécurité des enfants pour les licencier. Sur les 5 camarades concernés, 3 ont été purement et simplement licenciés, EES, et 2 autres ont été réintégrés à la halte garderie Giono, mais restent en grève par solidarité avec leurs camarades pour demander leur réintégration et elles ne lâcheront rien. Alors donc il y a un contact hein, pour les retrouver, donc c'est www.peopleandbaby, tout attaché donc, -enlutte.over-blog.com. Et sinon, il y a un autre site pour une aide plus, on va dire, plus financière. Donc, c'est www.cnt-f.org/santé-sociale.rp-cnt-index.htdm.
Il suffit d'aller sur le site de la CNT et de cliquer dans la phrase santé sociale. Ouais. Il y a tous les syndicats, vous trouverez. Voilà. Il y a une caisse de soutien, vous pouvez envoyer des mandats, vous pouvez envoyer des chèques. Voilà.
Tout à fait. Ouais. Parce que je crois que c'est des luttes très importantes et ces luttes-là sont
assez présentes. C'est des petites luttes, mais c'est des luttes très intéressantes.
Elles sont présentes.
Alors, j'ai pas de nouvelles de la fameuse lutte des surcouffes. J'ai pas eu le temps d'aller sur place, mais je crois qu'elle continue. Ils campent devant le magasin, ils appellent à boycotter leur propre magasin, ce qui est une démarche intéressante. Ouais. On n'avait jamais vu ça dans une lutte. Voilà.
Bah, on va vous parler un petit peu de ce qui s'est passé dans la région de Ouaraka, un petit peu. Hein, c'est
assez terrifiant.
C'est assez terrifiant. Donc, dans l'état de Ouaraka, le 27 avril, une caravane de solidarité formée par des membres d'organisations civiles mexicaines et internationales a été attaquée alors qu'elle se rendait à la communauté indigène autonome de San Juan Copala. Une vingtaine de paramilitaires de l'organisation UBISOR, Union pour le bien-être social de la région Triqui, affilié au parti au pouvoir dans l'État, le PRI, donc le Parti Révolutionnaire Institutionnel, a mitraillé le convoi faisant 2 morts et une quinzaine de blessés. Certains participants ont été capturés, d'autres ont réussi à s'enfuir dans les montagnes. Béatrice Carifio Trujillo et Jiri Antero Jacola ont été assassinés dans cette embuscade préméditée. Donc Béatrice, 35 ans, faisait partie du réseau mexicain d'action contre le libre commerce de l'Alliance mexicaine pour l'autodétermination des peuples. Du réseau contre l'exploitation minière, donc REMA, elle était directrice du centre d'appui communautaire travaillant Uni Cactus et adhérente à l'autre campagne. Betty Carino Trujillo était une défenseure des droits de l'homme depuis 15 ans. Elle faisait un travail d'accompagnement communautaire dans la région de la Mixteca, en formant des peuples indigènes de la région et en offrant une solidarité et un conseil aux femmes de la région pour la défense de leurs droits. Également, elle a contribué à la création d'un réseau d'économie solidaire dans plusieurs communautés de la région et a créé avec diverses organisations le réseau de radios indigènes communautaires du sud-est mexicain.
Alors, je rappelle que les radios communautaires, c'est des radios vraiment libres et pirates. Parce que, évidemment, on ne leur accorde pas le droit d'émettre au Mexique. Voilà.
Actuellement, elle était accompagnée par une organisation internationale de protection des défenseurs des droits de l'homme à cause des risques qu'elle courait. Jiri Antero Jaakola, observateur international finlandais, avait à peine 25 ans. Dès 2005, il faisait partie de Uusi Tuili Vinto, NEVO, Nouveau Vent, donc ça veut dire, une ONG travaillant sur les droits humains à Turku, sa ville natale. Il était arrivé il y a moins de 3 mois au Mexique. Selon des rapports des activistes des droits de l'homme, il était engagé dans un combat contre le changement climatique et pour l'observation pour la paix. Il animait des débats sur le changement climatique dans les communautés ainsi que sur la souveraineté alimentaire. Alors il y aura une mobilisation donc ce mercredi 5 mai. Donc si vous nous écoutez vendredi, effectivement, il sera un peu tard. Et donc ce mercredi 5 mai à 20h30 à la CNT au 33 rue des Vignoles, il y a une assemblée ouverte pour poursuivre la mobilisation solidaire.
Non, mais je vais vous laisser un petit truc. En fait, cette caravane, elle a été organisée par des gens d'Oaxaca parce que c'est une communauté indigène qui est classée comme subversive par le pouvoir et par les caciques du PRI local. Et en fait, ils sont encerclés par des espèces de paramilitaires qui sont des militaires, qui ne sont pas des militaires, mais bon, qui sont toujours liés au PRI. Et ces militaires organisent un véritable climat de terreur. C'est-à-dire que les gens ne peuvent même pas sortir du territoire de la commune. Ils subsistent avec leur seule culture qu'ils font. Il y a des gros commerçants qui sont souvent des caciques du VRI qui leur vendent des vivres à des prix scandaleux, prohibitifs. C'est-à-dire que le prix qu'un vous avez payé une baguette à Oaxaca, c'est pas le même que vous avez payé quand il y a ces marchands ambulants et crassement enrichis qui viennent vendre sur place. Donc les gens vivent dans cette communauté vivent dans un état de terreur pas possible. Et c'est des gens de Oaxaca qui ont monté cette caravane pour aller les aider à apporter des produits de première nécessité, des vêtements et très important aussi des semences parce que en particulier des graines de maïs qui, comme vous le savez, est la nourriture de base des paysans mexicains. Ça et les haricots, voilà. Et en montant...
Brevetés par les agriculteurs américains.
Ouais, en plus, oui. Et en montant sur cette commune, ben, il y avait un commando de paramilitaires qui les attendait et qui leur a tiré dessus à l'arme lourde. Hein. C'est des armes lourdes parce que la jeune Mexicaine, elle est morte. C'est une balle explosive qui l'a atteinte. Le jeune Finlandais, je sais plus. Voilà, il fallait parler de remettre un peu
le contexte
dans le contexte.
Remettre le contexte, évidemment. Bah, puisqu'on est dans la même, même région, donc au Honduras, crime de journaliste, des enquêtes difficiles. Honduras, des assassinats de journalistes se poursuivent sans trop de gêne. Il est vrai que des escadrons de la mort composés de policiers et de militaires sont fortement soupçonnés pour ces crimes. Il est vrai également qu'en général, le gouvernement de Lobos soit ne dit rien, soit tente de retourner la situation. Soit il ne peut faire autrement ou condamner mollement. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Plus d'une quinzaine de journalistes tués depuis juin dernier, quasiment une dizaine depuis le début de l'année. Et voilà enfin une condamnation publique de Lobo. Donc Lobo, c'est le président hondurien, je pense.
Hein. Ouais, ouais.
Mais pourquoi seulement maintenant ? Pour raison d'enquête engagée qui piétine ou parce que cette situation commence à provoquer des protestations à l'étranger dont Lobo a tant besoin, en particulier l'Europe et les États-Unis pour maintenir son pays sous contrôle. Le gouvernement hondurien ne peut faire l'enquête sur les crimes de journalistes. C'est pourquoi il annonce qu'il sollicitera l'appui des gouvernements de la Colombie, de l'Espagne et du FBI afin de résoudre des affaires d'assassinat de journalistes. Ce fut le président même du Honduras, Porfirio Lobo Sosa, qui a dit qu'il avait parlé avec le chancelier espagnol Miguel Ángel Morantino pour que son pays assiste le Honduras dans ses investigations. De la même manière, il demandera l'appui du FBI et du gouvernement colombien. Lobo qui participe à une rencontre.
C'est pas terrible.
Lobo qui participe à une rencontre avec des étudiants des universités au Salvador a dit que, entre guillemets, nous regrettons beaucoup la perte de toute vie humaine et plus encore quand il s'agit de fait qu'il est un droit universel, le droit de s'exprimer, de penser. Il a ajouté que nous avons instruit des autorités de journalistes qui prennent les moyens nécessaires pour que l'on puisse résoudre ces assassinats de journalistes. Il a assuré qu'actuellement, des contacts internationaux sont faits afin que les enquêteurs collaborent avec des policiers du Honduras, qui bien qu'ils ne le reconnaissent pas, ont été médiocres tant dans les investigations sur les morts des journalistes que sur le reste des crimes qui frappent la population en général. Nous sommes dans une situation d'insécurité tout à fait dramatique, a dit Lobo. Il a assuré que son gouvernement fait les meilleurs efforts pour réussir à rendre la sécurité au peuple hondurien.
Ben voyons.
Le président a déclaré qu'il ordonnait au corps de police de son pays, ouvrez guillemets, qu'il prenne les moyens nécessaires afin de résoudre les assassinats. Lobo affirme que pour lui, le sujet des droits de l'homme est un sujet de cœur. La corporation des journalistes reste consternée et dans l'angoisse. Elle exige que les autorités résolvent ces morts et que le président du collège des journalistes renonce à son poste face à l'ineptie avec laquelle il a administré l'institution qui devrait être en tête de la lutte pour la défense de la liberté d'expression et de la presse. Donc ça venait d'un site qui s'appelle Primitive. Alors je donne le site, c'est www.primitivi.org.
Voilà, un très bon site sur pas mal de trucs qui se passent en Amérique latine et puis ailleurs aussi.
Voilà. Toulousain. Toulousain.
Mix. Avec DJ Flashball.
Il s'agit d'un trucage.
Monsieur le Premier ministre, mesdames et messieurs, la loi de la jungle marque la fin d'un monde. C'est la révolution. C'est la révolution. Vive la révolution. Je veux le dire aux Français, le capitalisme a trahi les consommateurs. Le capitalisme fait repartir le chômage à la hausse tous les jours. 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 C'est la révolution. C'est la révolution. Vive la révolution. Vive la révolution. Le capitalisme, c'est l'irresponsabilité généralisée. Le capitalisme n'offre aucune solution à la crise. Le capitalisme, ce n'est pas la vérité. Au cœur du système de valeurs de l'économie.
Ça, c'est vrai, ça.
Contre l'avantage de compétitivité, le producteur français peut faire tous les gains de productivité.
Ça, c'est vrai, ça.
La compétitivité de notre économie est compétitive. Alors il faut bien sûr affaiblir leur compétitivité. C'est la révolution. Vive la révolution. C'est la révolution. Vive la révolution. Tous les jours. La loi de la jungle marque la fin d'un monde. Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Mesdames et messieurs, le capitalisme contribue à aggraver la crise.
Ça, c'est vrai, ça.
Le capitalisme est la principale menace de tous les Français.
Ça, c'est vrai, ça.
Ce qu'il faudra dans l'avenir, c'est contrôler beaucoup mieux le capitalisme. Tous les jours, mesdames et messieurs, c'est la révolution. Mesdames et messieurs, vive la révolution. Vive la révolution. Tous les jours, 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 tous les jours. La loi de la jungle marque la fin d'un monde. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Mesdames et messieurs, le capitalisme n'est pas la vérité. C'était une folie catastrophique. Le capitalisme, ce n'est pas l'anticapitalisme. Il faut opposer un capitalisme de capital à un capitalisme du capitalisme.
Ça, c'est vrai, ça.
C'est d'ailleurs le capitalisme qui a permis l'essor extraordinaire du capitalisme. Au capitalisme financier, il faut opposer le capitalisme du capitalisme.
Ça, c'est vrai, ça.
Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. C'est la révolution. Tous les jours. Vive la révolution.
Vive la révolution.
Mesdames et messieurs, la crise financière, on ne la vaincra pas en disant la vérité.
Ça, c'est vrai, ça.
Les Français devront produire les émeutes tous les jours. C'est la révolution. Vive la révolution.
La voix off.
Et une polémique.
Avec
DJ
Flashball.
Trucage.
Eh bien, de retour dans l'émission Zéro Hebdo sur Fréquence Paris Pluriel 106.3. Je crois que nous avons quelqu'un au téléphone.
Allô, bah c'est Marion. Alors, je voudrais parler de ce qui s'est passé hier. En fait, hier a commencé la semaine de la grève des chômeurs, donc un peu partout en France, et donc y compris à Paris, où on était parti de République, en fait, et puis on est allé à Porte des Lilas, où il y a le siège national de Pôle emploi. Donc on y entrait à peu près vers midi. Et donc voilà, on est rentré, on est allé jusqu'au 6e, au 7e étage, avec les balcons, poser des banderoles. Le patron était déjà un peu nerveux dès le début. Donc du coup, voilà, on s'est mis dans une salle, dans une belle salle de réunion, avec une grande table au milieu, du champagne, tout ce qu'il faut. Et puis on s'est assis, puis on a discuté, voilà. J'ai pas vraiment la notion du temps, donc je sais plus très bien combien de temps après. Il y a les civils qui ont commencé à se promener sur les balcons à côté. On a donc fermé les portes, on s'est en fait littéralement enfermé dans la salle de réunion. Donc les civils qui se promenaient sur les balcons des deux côtés, en fait. Et qui ont fini par être suivis par leur chien en uniforme bleu, qui se sont mis devant les portes en les bloquant. Et quelque peu de temps après, ils ont carrément enfoncé les portes de la salle de réunion. Ils ont cassé les verres, ils ont cassé toutes les bouteilles. Et puis ils nous ont plaqué tout au fond de la salle. Histoire que vous les visualisiez un peu, la salle est tout en long, avec une sorte de longue table ovale au milieu, comme ça. Du coup, ce qui fait, c'est qu'il y a des petits couloirs de chaque côté de la table, et donc on était plaqués tout au fond, avec les filles qui essayaient tant bien que mal de nous tenir. Et donc, ils nous proposaient, nous allons vous descendre uniquement un par un. Donc, nous, évidemment, on dit non, nous ne partirons que tous ensemble. Et ils ont fini par essayer de nous tirer et puis par réussir. Donc, il y a eu plusieurs personnes retrouvées à terre, piétinées. Ils ont fini par nous relever et par tous nous descendre un à un. Donc, il y avait une sorte de long bus et puis une petite camionnette, quoi, pour nous embarquer. Voilà, on s'est retrouvés dans les camions. Alors certains d'entre nous privilégiés journalistes à FPP, attention, rien que ça, nous avons pu sortir des camions. On a d'abord été mis dans un coin puis relâché. Il y a eu au final environ 90 arrestations. Ça n'a été que des contrôles d'identité, donc pas une seule garde à vue, ce qui était plutôt une bonne chose. Ce qui est assez drôle, c'est que avec ce qui se passe en ce moment par rapport au chômage, notamment en mai, là, c'était la prévision des 300 000 chômeurs en fin de droit. On en parle beaucoup en ce moment du chômage, etc. Forcément, ils étaient un peu flippés de l'image que ça pourrait, de l'image qu'une répression d'une occupation de chômeurs pourrait donner, d'autant que plus qu'il y avait beaucoup de médias. Du coup, ils ont été extrêmement polis et aimables. Bon, à l'intérieur de l'immeuble, comme il n'y avait pas de caméra, forcément, ça a boum, boum, boum. Mais dès que c'était sorti à l'extérieur, tout d'un coup, c'était oh, « Vous allez bien, monsieur ? Vous allez bien, madame ? Vous en faites pas ? Tout va bien ?» Ils étaient extrêmement, mais oui, je vais le dire, ils étaient respectueux. Donc, voilà. Et sinon, ce qu'il y avait de positif par rapport à cette action en tant que telle, c'est que bon, déjà on était dans le siège national, donc même si on n'a pas beaucoup entendu parler dans les médias, ça a quand même fait pas mal de bruit dans le milieu. On a vraiment pu discuter, on s'est assis, on a discuté du mouvement en tant que tel, de la situation du chômage, de ce qui serait possible de faire. Il y avait pas que des chômeurs dans la salle, il y avait aussi des précaires, il y avait aussi des représentants d'associations dans les banlieues où les jeunes sont les plus touchés par le chômage. Et puis il y avait quelques représentants syndicaux de Pôle emploi en tant que tel, de femmes qui, deux ou trois femmes qui se sont fait embarquer d'ailleurs. Et qui vont malheureusement pour elles se faire virer très certainement les prochains jours, parce que c'est pas le genre de choses que les patrons apprécient beaucoup. Donc voilà, et puis voilà, en tout c'était positif, donc on va voir au fur et à mesure de ce qui va se passer dans cette semaine de solidarité pour pouvoir faire un bilan la semaine prochaine. Bon, bah, je vous souhaite une bonne fin d'émission, bonne soirée et à bientôt.
Attends. Dis-moi, est-ce que y a une suite, puisque c'est quand même un mouvement national, puisque en Bretagne, c'est parti en Bretagne et tout ça. Est-ce que y a un lien qui se fait avec tout ça?
Et puis les copines, on va les défendre, hein, de toute façon. Hein. Les copines syndicalistes.
Écoute, moi j'ai participé à l'action, je témoigne uniquement de l'action. Je suis fait pas partie d'un des collectifs qui a organisé l'action en tant que telle. Donc malheureusement, j'ai pas vraiment de réponse pour toi là-dessus.
L'ambiance était comment? Il y a eu des prises de parole. Comment ça s'est
passé sur ce contexte-là? Comment effectivement les gens réagissaient à l'intérieur?
Ça s'est plutôt bien passé. C'était déjà, les gens étaient très calmes parce qu'en fait, quasiment dès le début de la réunion, on a été encerclés par les flics. Donc c'est vrai qu'il y avait pas mal de pression, mais en gros, c'est, les gens ils sont restés à peu près calmes. Les prises de parole étaient respectées. On était très nombreux, on était une centaine, donc c'est vrai que c'était un peu compliqué. Il n'y avait pas autant de place autour de la table pour discuter, donc c'est vrai que ça a tourné autour de 5, 6, 7 personnes, mais les avis étaient divergents, du coup c'était assez animé, les arguments intéressants, etc. Non, à ce niveau-là, encore une fois, c'était vraiment très positif.
On a entendu parler de blessés, est-ce que c'est le cas ou pas, Marion?
Alors, en fait, blessé, c'est un bien grand mot. Disons qu'il n'y a personne qui s'est retrouvé à l'hôpital ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai qu'ils nous ont pas mal brutalisés dans l'immeuble, encore une fois. Parce qu'à partir du moment où on avait franchi le pas de l'immeuble, c'était tout doux. Limite, ils te remettent ton manteau, ce genre de choses, quoi. Donc, disons que oui, ils ont été assez brutaux parce qu'en fait... Il y a un moment donné où, encore une fois, ils voulaient nous tirer un par un. Et que, vu la formation de la salle en tant que telle, c'était juste impossible de nous faire sortir normalement, en dehors, de nous laisser complètement le passage. Et pour eux, il n'en était pas question. Et puis, ils avaient bloqué les balcons parce que c'est trop dangereux. Du coup, on ne pouvait pas non plus prendre l'air, etc. C'était un peu compliqué. Et du coup, quand on a refusé catégoriquement de sortir un par un, ils nous ont tiré un par un. Donc, il y a eu des mouvements de va-et-vient. Et puis, forcément, il y a eu des bras un peu brutalisés, des personnes tombées, piétinées. Bon, mais il n'y a vraiment pas eu de blessés graves du tout. Vous en aurez entendu parler, je pense.
D'accord. Bah très bien, d'accord.
C'est quoi la suite du mouvement des chômeurs, enfin de la grève des chômeurs et des précaires? Parce qu'en Bretagne, ils ont occupé longuement toute une après-midi la CAF à Rennes,
à Lorient aussi.
À Lorient, à Nantes,
à Caen,
à Brest, à Caen, enfin bref. C'est quoi les prochaines actions?
Bah, les prochaines actions, elles vont... seul le collectif le sait, donc ils annoncent pas à l'avance. Ouais. Il y a des rendez-vous un peu partout, et puis les occupations se font en tant que telles, quoi. Il faut juste... moi, j'ai pas sur moi, mais il faut juste regarder quels sont les rendez-vous jour.
On va les signaler, justement. On va les signaler, les rendez-vous.
C'est parfait.
On te remercie, Marion.
Marion qui était sur le terrain. Merci.
Ciao.
Gros bisous.
Bisous à toi.
On va enchaîner. À Montreuil, il y a le piquet de grève, cette grève des chômeurs. Alors, on va le faire à partir de demain. Alors, le mercredi 5 mai, ça sera le piquet de grève et la journée chômée des enfants de chômeurs. Et c'est rue du Capitaine Dreyfus à Montreuil.
Le jeudi 6 mai, après le piquet, c'est l'apéro des chômeurs à 18h au 28 rue Carnot.
Le vendredi 7 mai, après le piquet, c'est le banquet des chômeurs à 20h30, rue du Capitaine Dreyfus, toujours.
Le samedi 8 mai, le piquet des chômeurs en grève continue.
C'est toujours la même adresse,
voilà,
c'est rue Dreyfus.
Bien sûr.
Vas-y.
De dimanche 9 mai, donc, c'est le bal des chômeurs, donc heureux d'être en grève. Donc, le rendez-vous est à 16h, toujours rue du Capitaine Dreyfus.
Et le vendredi 14 mai, alors ça sera à 19h, il y aura une réunion publique à la Bourse du Travail de Montreuil, métro Croix-de-Chavaux. Chômé s'organise à Montreuil, perspective pour une grève des chômeurs et précaires. Voilà.
Et il y aura un rendez-vous, donc comme chaque mardi, donc c'est le Café des Cafards, donc le mardi 11 mai, de 17h à 19h, au 9 rue François Deberg, métro Croix-de-Chavaux à Montreuil. Donc des cafards ayant droit de la CAF, de Pôle emploi, de la CPAM, du CCAS, se sont associés pour faire face collectivement à ces administrations.
Quand on l'a rattrapé, tiens.
Voilà un peu comment s'organise un petit peu cette semaine, on va dire, de grève des chômeurs, mais qui sera pas seulement une semaine, qui a l'air effectivement de s'intensifier.
À Montreuil et dans sa banlieue, c'est-à-dire Paris. Ouais. Voilà. Bon, moi j'ai autre chose là. Le 6 mai, un rassemblement à l'université Paris 10 de Nanterre contre le contrôle des titres de séjour par les universités. En violation de la réglementation, certaines universités vérifient la nature du visa d'entrée en France ou les titres de séjour pour l'inscription des étudiants étrangers. Cette exigence est un pur zèle qu'aucun règlement n'impose ni même ne recommande. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Pécresse, le rappelait le 28 juillet dernier en réponse à la question d'un député. La carte de séjour n'est normalement pas au nom des pièces exigées pour l'inscription de l'étudiant dans un établissement dès lors qu'elle n'est parfois établie que postérieurement à l'inscription. En tout état de cause, il n'entre pas dans les attributions des établissements d'enseignement supérieur de vérifier la régularité de la situation d'un étudiant au regard de son titre de séjour. Cette compétence demeure propre aux services compétents du ministre de l'Intérieur. Pour que cesse cette discrimination, pour que les universités ne se comportent pas comme des préfectures bis, le réseau Universités sans frontières d'Île-de-France a décidé d'organiser une série de rassemblements devant les universités franciliennes qui exigent un titre de séjour. Associé à une demande de rendez-vous, ces rassemblements visent à interpeller les instances sur cette pratique policière à la source d'un harcèlement inutile. Le premier rassemblement aura lieu à l'université Paris 10 Nanterre le 6 mai à partir de 11h. Autre deux choses aussi, je vous rappelle le 9.
Manifestation antifasciste, faut tous y aller. Voilà, 14h, Belleville.
À Belleville.
Ponctualité exigée.
Et puis samedi soir aussi à la rôtisserie, dans le.
Repas de soutien.
10e arrondissement, repas de soutien.
Rue Sainte-Marthe.
Rue Sainte-Marthe, à 10 cents. Donc je crois que c'est à partir de 19h ou
19h30.
19h30. Allez, une autre date importante, hein, parce que c'est faut le signaler. Ça sera le 7 et 8 mai à la CIP. Il y a ces deux jours de soutien, deux jours de réunion, de soutien, de concert en soutien au journal CQFT, ce qu'il faut détruire. Voilà. Et c'est
détruire.
14C, quai de Charente. Et
découvrir.
Donc, le samedi, ça sera le soir vers 17-18h. Et le vendredi, 7 mai, ça sera vers 17-18h. Il y a trois groupes. Et le 8 mai, ça sera à 15h. Alors, il y aura une projection de film et tout un débat sur ces petits journaux alternatifs.
Et les médias alternatifs, ouais, en général.
Samedi soir, il y aura du rang aussi.
Le mercredi, ça c'est quelque chose qui est parti le 26 avril. Il y a ces 10 jours de jeunes actions pour une convention internationale pour l'élimination des armes nucléaires. Donc le mercredi 5 mai à 19h, donc à Mairie du 2e, il y a la projection du film La Bombe de Peter Watkins. Et donc il y aura des rassemblements qui seront prévus. Donc ça sera à la place Saint-Michel, métro Saint-Michel.
On a 22 secondes pour le frappe.
Ouais, on va garder.
Allez. Oui.
On va effectivement. 7, voilà, 6, c'est parti.
5.
Les 7 et 18 mai, donc le frappe, c'est le. Bah, tu vas nous dire ce que c'est le frappe, cher ami.
Festival des résistances et des alternatives populaires.
Voilà.
Ah, c'est populaire, c'est pas parisien.
Des alternatives à Paris, hein. Moi, j'ai.
Ah oui. Bon.
C'est ceux qui ont toujours cherché un truc, un appart à Montreuil et, voilà, et qui vivent à Aubervilliers, c'est ça. Oh, les mecs, j'ai des boules.
Donc ça commencera le vendredi 7 mai donc au Jardin d'Alice, donc 40 rue de la Chapelle, métro Max Dormois ou Porte de la Chapelle, à 19h avec un apéro concert.
Ah, Ecobox.
Avec non, c'est pas Ecobox. Avec la gêne occasionnée, donc visite d'un autoconstruction, et à 20h30 présentation du projet d'habitat collectif Zelda. Et à 22h30, projection en plein air de Main basse sur la ville, le film de Francesco Rosi de 1963. Vas-y, camarade. Allez.
Je vais vous recommander, parce que bon, c'est un peu sérieux, frère, cette année, mais bon, il y a une belle balade sur la gentrification à Paris. Et puis le 13 mai, Sextase, zone temporaire d'autonomie du sexe, à la Marquise, 11 rue Billard, métro Saint-Paul ou Bastille. À 15h, du sexe virtuel ou exhibé au sexe réel, avec Jacques Lesage de La Haye, auteur du livre Introduction à la psychanalyse de Reich. Concert, les cellophants, violoncelle, débat avec le mouvement international pour une écologie libidinale. Pièce de théâtre à 19h, maelstrom excrémentiel, repas légèrement aphrodisiaque, soirée concert, Bacterium de Cavalgade, anarcho-punk crust, en marge des débats, exposition d'artistes. Fabrique ton orgasme, exposition éphémère et participe alimentée par le public. Chacun amène avec lui, elle, le joujou, l'image, l'accessoire, le fétiche qui le fait quitter le plus. Et maintenant, on va danser.
Et tu parlais de la gentrification. Je crois que c'est la journée du dimanche sera aussi, toutes sont intéressantes. La gentrification et Grand Paris. Donc, il y a un rendez-vous à 10h30, donc ce dimanche 9 mai, devant la rotonde de la ville, sur la place Stalingrad, donc métro Jaurès ou Stalingrad. Donc, c'est une balade sociologique à découverte du 18e et du 19e arrondissement et des politiques de transformation, d'embourgeoisement des quartiers populaires, avec Anne Clerval, donc qui est géographe, et Jean-Pierre Garnier, donc qui est sociologue urbain, avec une arrivée à Ecobox.
Il vient de sortir un bouquin très intéressant sur les violeurs. Ouais. On en a déjà parlé ici.
Ouais.
Pardon, vas-y, termine. Et puis il faudra pas oublier que tout ça c'est consultable sur le web. L'info que je vous ai annoncé sur le rassemblement à Paris 10 Nanterre, je l'ai trouvé sur HNS Info. Activist News Service, le FRAP, ils ont leur site. Sinon, vous avez Démosphère, vous avez Paris Indie Média, et sur tous ces sites, il y a plein de liens sur d'autres sites d'informations alternatives, et je vous invite à les consulter.
Donc, pour terminer sur cette journée du dimanche, donc.
T'avais pas fini ?
Non, mais c'est pas grave. C'est pas grave, camarade. Donc,
au vêpre, moi, vers 17h.
Oui, bah, je sais bien. Donc ça arrivera à Ecobox, donc 37 rue Pajol, donc métro Max Dormois ou de la Chapelle. Donc. Et à 14h, une projection de Harmonie Brisée, donc documentaire sur la destruction d'une tour à Beauvais. Il y aura un débat suivi à 14h30 sur la gentrification, embourgeoisement des quartiers. Donc projet politique ou processus social, avec Virginie Milo, donc ethnologue, Anne Clerval, géographe, et Jean-Pierre Garnier, sociologue. Et donc voilà, il y a d'autres choses ce dimanche.
Tu l'avais déjà dit là, ça fait deux fois.
Non, c'est pas. Non, mais tu sais pas.
Une troisième fois.
Je suis pas. Donc voilà. Donc vous retrouverez tout le programme donc sur le site du FRAP. Donc il doit y avoir un site internet, je suppose.
Oui, bien sûr.
Je ne vois pas. Mais enfin, vous trouverez tout ça donc sur le site du FRAP. Hein, donc 7 au 18 mai, mais on aura l'occasion de revenir un peu sur d'ici le 18 mai sur tout ce qui va se passer sur le FRAP. Et bien voilà, donc l'émission se termine. On va laisser les micros, les boutons à Raro, donc pour Dagoulé Mbala. On vous retrouve la semaine prochaine et que la lutte continue. Salut.
Salut.
Bonsoir à toutes et à tous. Téléportez-vous sur le net de toutes les sensations pour surfer sur le groove du futur.